Bonjour et bienvenue dans ce podcast Yoga et nous. Je vous souhaite avant de commencer une très belle année 2021. Je suis Laura Châtelain, journaliste en santé bien-être et je pratique le yoga depuis plusieurs années. Pour moi, c'est bien plus qu'une pratique sportive ou une méthode de relaxation, c'est quelque chose qui infuse notre quotidien. Dans ce podcast, j'ai eu envie d'échanger avec des profs passionnés qui partagent avec nous leur vision du yoga et leurs conseils pour l'intégrer pleinement dans nos vies. Pour ce premier épisode de 2021, on va se demander comment notre pratique peut accompagner cette année qui démarre. Olivia Charpentier est professeure de yoga et sophrologue en Lozère. Chaque année, elle anime une retraite de yoga spéciale Nouvel An. On a parlé ensemble de cette période particulière et de comment on peut y intégrer le yoga. Bonjour Olivia, merci beaucoup de te joindre à moi pour ce premier épisode de l'année.
Merci, bonjour. Bonjour à tous.
Pour commencer, peut-être que tu peux nous dire si pour toi c'est une période particulière et puis nous expliquer pourquoi tu aimes tant être en retraite de yoga pour le passage à la nouvelle année.
Alors en fait, moi je fais des retraites tout au long de l'année. Hein, c'est vrai qu'à chaque fois, il y a cette idée de transformation, de voyage intérieur en fait. C'est l'intérêt de partir en retraite plutôt que faire simplement un atelier ou un stage. Mais c'est vrai qu'à la période du Nouvel An, c'est vraiment particulier. Il y a tout autour de moi beaucoup d'attentes en fait, de la part des personnes. Il y a une envie vraiment que je retrouve croissante de célébrer cette fin d'année d'une manière un peu plus authentique. Les gens ont envie d'être en accord avec leurs valeurs. Ils ont envie d'être plus respectueux aussi de leur santé, de l'environnement. En fait, je sens qu'il y a un besoin vraiment de trouver du sens. Et il y a beaucoup de personnes qui se trouvent en décalage avec la manière habituelle de célébrer le Nouvel An et de faire la fête. Bon, souvent, c'est beaucoup d'alcool, beaucoup de nourriture, de foie gras. Et en fait, un peu en décalage avec la société de consommation. Et c'est pour ça que j'aime bien proposer cette retraite, parce que ça permet de se ressourcer et puis d'aborder l'année d'une nouvelle manière un peu plus légère et avec de l'enthousiasme et du dynamisme pour commencer cette nouvelle année.
Est-ce que toi, c'est une période que tu vois vraiment comme un nouveau départ, un nouveau cycle, une impression peut-être de page blanche à écrire, de nouvelles possibilités? Comment tu perçois ça, ce début d'année?
Oui, j'aime bien vraiment prendre le temps de à la fois faire un bilan sur ce qui s'est passé, autant les bonnes choses que les mauvaises, et en même temps ressentir que tout est expérience, qu'il n'y a pas de... Finalement, c'est ce que le yoga nous apprend. On peut avoir la perception que quelque chose est difficile, mais ça nous fait grandir quand même. Toute expérience nous fait grandir. Et ça correspond à la période du solstice d'hiver. On est un tout petit peu après le solstice d'hiver. Et ce solstice vient marquer le retour de la lumière après les nuits qui sont les plus longues de l'année. En décembre, on a les nuits qui s'allongent. Et jusqu'au solstice, c'est la nuit la plus longue. Et puis après, la lumière revient. Ça vient vraiment clore un cycle. On part sur autre chose où petit à petit, les jours vont s'allonger. Et donc, c'est l'occasion de laisser aller ce qui n'a plus lieu d'être, de se délester, de lâcher prise, en fait. Ça peut être autant en termes d'action, de comportement, peut-être de relations aussi, des relations qui ne sont plus nourrissantes.
Et est-ce que ça, le fait de laisser certaines choses derrière soi, ça te paraît d'autant plus important pour 2021, parce qu'on sait que 2020 n'a pas été forcément une année facile pour beaucoup de gens? Est-ce que du coup, ça a encore plus de sens et d'intérêt?
Oui, je trouve vraiment que cette année a été historique, hein, a été vraiment très très difficile pour tout le monde. Moi, je ressens même, je vois dans mon entourage beaucoup de personnes qui sont confrontées à des épisodes très chaotiques dans leur vie personnelle, et je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est comme s'il y avait un écho entre les existences individuelles et l'existence collective, le chaos actuel, hein, quand même. Donc voilà, oui, c'est l'occasion de laisser aller tout ce qui a été d'émotions difficiles traversées, et pour pas qu'elles s'ancrent aussi durablement dans le corps, pour pas qu'elles viennent continuer à laisser des traces, des impressions. Donc ça peut être de la peur, ça peut être de la tristesse aussi, hein, de la souffrance, ça peut être de la colère, des ressentiments, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Et aussi de se donner la possibilité de lâcher prise de tout ça, c'est s'inscrire dans le cycle de la vie que nous amène la philosophie du yoga. On a l'idée de la trinité avec Brahma le créateur, Vishnu qui préserve la vie et Shiva le destructeur, mais qui permet la renaissance. Donc cette idée, c'est que la destruction fait partie intégrante de la création. C'est une idée qui est très belle et que je trouve vraiment pleine d'espoir dans la période inédite qu'on traverse.
Et concrètement, sur quelles émotions ou sur quelles pratiques de yoga tu travailles, toi, pendant cette retraite du Nouvel An et sur lesquelles on peut travailler, nous, même si on est à la maison, dans cette pratique de tout début d'année?
Alors, il y a beaucoup de choses, hein, parce que c'est toujours des retraites qui sont très complètes. Mais on peut... Alors, il y a l'idée... j'aime beaucoup la pratique de Trataka, qui est l'idée de... fixer la flamme d'une bougie pour retrouver justement sa chaleur, sa lumière, pour retrouver de la concentration, se recentrer un petit peu sur l'essentiel, se recentrer sur soi.
Donc comment on peut faire ça chez nous ?
Eh bien, on s'assit en position de méditation, en veillant à avoir le bassin bien installé en antéversion, la colonne bien érigée. Et puis on fixe une bougie à 30-50 cm de soi, à la hauteur des yeux. Et on essaye de pastiller. Et c'est une pratique qui va amener le calme à l'intérieur. Voilà. Après, pour moi, l'idée, c'est aussi de ramener petit à petit une régularité, installer une sadhana quotidienne dans sa vie. En amenant le yoga dans sa vie, ça peut commencer par quelques minutes de recentrage au lever, au coucher, et puis petit à petit, allonger les temps de pratique, s'apercevoir qu'on a envie de pratiquer plus longuement.
Et sur l'idée d'essayer d'avoir cette année une pratique plus régulière de yoga, même si c'est pas très long, mais en tout cas d'en faire une habitude peut-être quotidienne ou peut-être plusieurs fois par semaine, est-ce que tu as des conseils pour ça, des conseils assez concrets sur comment on peut intégrer le yoga dans sa routine quotidienne ou hebdomadaire pour que ça devienne plus facile ?
Ça peut être... Déjà de créer un espace dans sa maison, ça c'est, je pense que c'est la base en fait, c'est de faire une place concrète au yoga dans sa vie, en s'installant, il n'y a pas besoin de grand chose, mais peut-être d'avoir un espace où le tapis est toujours déroulé, avec une petite bougie, une petite image, une petite statuelle, enfin voilà, un petit autel peut-être, ou déjà voilà, juste un espace où le tapis est déroulé, un espace idéalement au calme. Mais voilà, après, on adapte. Mais si on a cette place, si le tapis est déjà déroulé le soir, pour si par exemple on choisit de commencer la journée avec ça, ben ça aide en fait. Après, moi, je suis vraiment convaincue que la pratique au lever est idéale parce que ça permet vraiment, c'est comme justement la nouvelle année, ça permet de démarrer la journée. Comme faire cette retraite de Nouvel An ou avoir des pratiques spéciales au Nouvel An, ça permet de bien orienter l'année. Eh bien, se dire qu'on commence la journée avec quelques instants de méditation, de yoga, une salutation au soleil, ça peut être vraiment court, mais quelque chose qu'on ressent aussi de l'intérieur. On peut se sentir un peu léthargique, un peu engourdi, surtout l'hiver. Et là, les salutations au soleil vont beaucoup aider. Mais ça peut être au contraire, si on se sent très agité, de simplement se poser en assise silencieuse ou faire un pranayama. Donc après, c'est écouter aussi ses besoins.
D'accord. Et c'est vrai qu'au moment du Nouvel An, on parle souvent de bonnes résolutions. À quel concept ça peut se rattacher en yoga ? Et je crois qu'on va peut-être plutôt parler d'intention. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Et pourquoi ça peut être intéressant de poser une intention pour cette nouvelle année ?
Oui. Déjà, la notion de résolution, on peut la rapprocher de la notion de sankalpa. Sankalpa, c'est donc soit une intention, soit une résolution, suivant la traduction. C'est un outil qui est extrêmement puissant, puis qu'on retrouve aussi dans d'autres techniques modernes de développement personnel, hein, comme la sophrologie, l'hypnose, le training autogène de Schultz, et beaucoup de techniques comme ça. En fait, c'est une phrase courte, positive, concise, qui peut être un peu comparée à une graine qu'on va planter à l'intérieur de notre conscience et puis qui va pousser, qui va germer tout au long de l'année, au fur et à mesure de la répétition avec la pratique. Et cette phrase, cette intention, elle peut être là soit pour résoudre une difficulté à court terme. Ça peut être, par exemple, soutenir sa vitalité en période d'épidémie, en période de fragilité, de convalescence ou de maladie. Et ça peut être aussi à plus long terme. On peut garder le sankalpa pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, voire même toute sa vie. Et dans cette idée, alors, c'est de faire émerger ce qui correspond à notre aspiration profonde, pour aller à la rencontre de soi avec davantage d'authenticité.
D'accord. Et comment justement on va trouver cette phrase, cette intention? Parce qu'on peut ne pas trop savoir quoi dire, quoi choisir comme intention. Est-ce qu'il faut laisser venir des images? Qu'est-ce que tu conseilles pour arriver à trouver l'intention, pardon, qui nous parle vraiment?
Bien, souvent, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont émerger spontanément quand on pratique, mais parce qu'on est dans un état de conscience modifié. Donc, au moment du yoga nidra, quand on pose cette intention dans le yoga nidra, on est déjà dans un état de détente. Donc, les freins et les barrières limitantes de la conscience s'abaissent. La conscience ordinaire, on a toujours des freins, des blocages qui sont dus à notre éducation, qui sont dus à nos expériences aussi vécues. Mais ça peut être aussi des choses qui émergent spontanément quand on est hors de son quotidien. On a la possibilité de prendre quelques jours de recul dans un autre rythme que son rythme habituel. Donc ça, c'est l'intérêt justement des retraites en immersion, c'est de sortir de son rythme habituel pour prendre du recul et pour avoir un accès justement à ce qui compte vraiment pour nous. Et puis, pour savoir ce qui compte pour nous, moi je suis aussi très influencée et convaincue de l'importance d'être connectée à la nature, à la terre, à l'énergie de la terre, de contempler aussi les beaux paysages, se connecter aux éléments, aux cinq éléments. Ça permet de à la fois se recentrer sur ce qui nous est essentiel, mais tout en s'ouvrant à quelque chose qui nous dépasse.
Et pour aider à trouver cette intention, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, même si évidemment ça va être très personnel, mais quelques exemples de ce que ça peut être en ce début d'année, voilà, qu'est-ce qu'on veut poser comme intention pour 2020, 21, pardon?
Ça peut être, je vais dire une idée un peu bête comme ça, mais je garde la paix intérieure, quelles que soient les perturbations extérieures, ou je fais confiance à mon corps et à son potentiel et à ses ressources illimitées, ou à son potentiel d'auto-guérison.
Est-ce que ça peut être des choses plus précises aussi, si on a un projet, une envie qu'on a pour cette année?
Bien sûr. Ce qui est important, c'est que ça reste positif. C'est que ça reste quelque chose. Je me fais confiance pour réaliser mon projet en toute sérénité, par exemple. Ou pour développer toutes les ressources qui vont m'aider à atteindre mon projet, à réaliser mon projet. C'est bien que ça reste un petit peu large. Enfin, ça peut être précis, mais c'est intéressant quand même que ça reste ouvert.
Et ensuite, cette intention, par exemple, l'idée de se faire confiance, comment on va la mettre en application sur le tapis pendant ces séances de yoga et puis aussi en dehors du tapis tout au long des semaines qui vont venir?
Eh bien, il y a des postures, hein, qui sont particulièrement adaptées pour le thème de la confiance. Par exemple, ça va être beaucoup le travail sur le chakra du cœur, sur l'ouverture de cœur. Ça peut être aussi les équilibres sur les mains. Ça peut être aussi travailler son ancrage avec les postures debout. Puis, d'une manière générale, à partir du moment où on est recentré sur son souffle, sur son corps, dans le moment présent, il y a un état de paix, de stabilité qui s'installe.
Mais cette phrase, la phrase qu'on va avoir choisie comme intention, est-ce que par exemple on va se la répéter à chaque début et fin de pratique, et puis peut-être y penser aussi dans la journée?
Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure. Ouais, c'est ce que je voulais dire, du coup j'ai oublié. Mais effectivement, ce sankalpa, on peut à la fois l'utiliser donc dans le cadre d'un yoga nidra, qui est une pratique particulière, méditation, relaxation, allongée, donc c'est une pratique à part entière, mais dans une forme de yoga postural, c'est très intéressant aussi de commencer sa pratique posturale avec son sankalpa, et puis de la terminer après sa relaxation, de se redire juste avant de se redresser, de se redire son sankalpa. Ça va être très intéressant. Après, dans la vie en général, ça peut être aussi entre au moment où on se couche, juste avant de s'endormir, et puis au moment où on se réveille. Parce qu'on revient à cette idée de conscience réceptive, où les barrières limitantes sont un petit peu levées. Et donc, c'est un état entre veille et sommeil. Et c'est dans cet état, la résolution vient de manière plus profonde, en fait, dans la conscience. C'est pour ça que ça permet à cette résolution d'être plus efficace que les traditionnelles résolutions de Nouvel An. On prononce sous le gui avec le verre de champagne. Et donc, qui est un état de conscience modifié aussi parfois, mais pas le même.
Et d'ailleurs, si on n'a pas forcément une intention pour soi, pour un projet personnel, est-ce que ça peut aussi être poser une intention pour les autres? Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut l'exprimer?
Au contraire, c'est très très bien, parce que de toute façon, on est liés, hein, on est tous liés. Donc au contraire, poser une intention sur le monde, poser une intention pour la planète, souvent ça va être lié aussi à l'idée d'ouverture du chakra du cœur, du centre émotionnel, de l'amour inconditionnel. Donc on peut méditer sur le chakra du cœur et puis essayer de développer une intention pour les autres, pour détendre cet amour finalement, c'est l'amour bienveillant. Qu'on va étendre, ça peut être très très bien de faire ça. Parce que quand on s'ouvre comme ça mène vraiment au sens profond du yoga.
Quelle va être la différence entre ce sankalpa et un mantra, par exemple? Est-ce qu'on les utilise différemment ou est-ce que ça se rapproche?
Oui, c'est quand même un petit peu différent. Les mantras, c'est quand même enfin, moi, tel que j'utilise les mantras, ça va être des mantras en sanskrit. Qui ont une puissance aussi et des effets, mais c'est moins personnalisé que le Sankalpa. Le Sankalpa, c'est vraiment nous qui le créons. On dit même que le Sankalpa doit être secret, doit être gardé pour soi, très très personnel, alors que le mantra, on connaît la parole du mantra. Enfin, il y a des mantras qui sont universels et qui sont répétés depuis des millénaires. Mais l'efficacité est importante aussi du mantra.
Et en dehors de ce Sankalpa qu'on peut essayer de définir pour ce début d'année, est-ce que toi, il y a des types de pratiques, d'exercices, de respiration peut-être, ou de visualisation que tu aimes bien proposer pour ce début d'année?
Il y a un bija mantra. Les bijas, c'est des sons et des monosyllabes. En fait, c'est des mantras monosyllabes. Et il y a le son ram. Il est très adapté pour le dosha vata. Le dosha vata, c'est celui qui est un peu aggravé, enfin qui est aggravé en fin d'automne, début d'hiver, donc en ce moment. Et donc le dosha vata, c'est. Donc on est tous constitués, je ne vais pas faire un cours d'Ayurveda, mais on est tous dominés par différents doshas. Et le vata est dominé par l'air et les terres. Et il est souvent nerveux, il a souvent des peurs, des angoisses. Et donc ce bija, il va libérer les peurs, il va procurer de la force, du calme, il va être très apaisant et donner de la force en même temps. Donc ça peut être voilà, répéter le son RAM très concrètement, c'est facile. Et ça peut être très bien aussi. Voilà, après, moi j'aime bien les postures du guerrier, j'aime bien tout ce qui va activer aussi. Le feu en fait, hein. Donc les salutations au soleil, mais aussi tout le travail avec les postures aussi en rapport avec l'énergie du ventre, enfin du nombril, le Manipura chakra, et puis aussi avec le chakra du cœur, donc le cœur, les extensions arrière, le travail sur les postures sur les mains. Il y a aussi des mudras qui sont très intéressants. J'aime beaucoup le Abhaya Hridaya Mudra, qui est un mudra magnifique. Où on vient mettre la main droite sur la main gauche, le dos des mains se font face, on entrelace les os auriculaires, après les annulaires, après les majeurs, et on a les pouces et les index devant soi. C'est un magnifique mudra et on peut le mettre devant le cœur. Et c'est une mudra d'ailleurs, en fait on dit une mudra. C'est une mudra qui vient aider à trouver le courage et la force du cœur, de l'énergie du cœur. Et donc ça, c'est à la fois le courage lié aussi à l'amour. Donc c'est très très puissant.
Et ça peut, oui, aider à donner le petit coup de pouce pour arriver à mettre en place les transformations qu'on aimerait voir dans sa vie.
Oui. Après, il y a une transformation, mais la transformation, elle est, c'est à l'image de la nature et de la graine, en fait. C'est aussi faire confiance. C'est planter une graine. Et puis après, c'est faire confiance à la sadhana. C'est la pratique, en fait, quotidienne. L'espace aussi qu'on va se donner pour... ça peut être vraiment, ça peut être 20 minutes par jour, mais à partir du moment où on place une intention pour se faire du bien, pour être dans cette dimension d'ouverture aussi, on va changer quelque chose. Il y a plein d'outils en fait. Les outils, c'est juste des outils, mais la petite graine qu'on va placer, l'intention qu'on va placer, elle va être essentielle. Et alors, voilà, ça peut être se lever le matin, lire quelques lignes de texte inspirant 5 minutes pour commencer sa journée comme ça. Ça peut être au quotidien aussi, quand le téléphone sonne, plutôt que se précipiter dessus, s'arrêter régulièrement, prendre conscience de cette sonnerie, prendre conscience de sa respiration, de son corps, avant de décrocher, pour revenir vraiment dans le moment présent. Ça peut être justement ne pas allumer son téléphone dès qu'on se lève. Et prendre le temps de s'accorder cette demi-heure, ces 20 minutes. Et après seulement, se autoriser les réseaux sociaux et tout le reste, mais les médias, et, ou pas d'ailleurs. Parce qu'il s'agit aussi de choisir ses nourritures. En fait, il y a les nourritures physiques, les nourritures du corps, la nourriture qu'on mange et quoi. Mais il y a les autres sources de nourriture, donc ça peut être aussi ne pas se laisser trop happer par l'extérieur et choisir de... si on sent que les informations nous amènent à un climat trop anxiogène, il ne s'agit pas de se couper du monde et de pas du tout vouloir être informé, mais peut-être contrôler, maîtriser un petit peu ce flot d'informations en choisissant de ne les écouter qu'une fois tous les deux jours, dans un temps limité. Plutôt qu'avoir la radio en boucle. Parce qu'en fait, là où va la pensée, va l'énergie, et va la conscience et va l'énergie. Donc, si on se laisse happer par tous les sens, par à l'extérieur, en fait, on perd un petit peu le contact avec soi et on perd son pouvoir créateur aussi.
Et pour finir, toi qui es sophrologue et qui du coup utilise, j'imagine, beaucoup la visualisation, est-ce que tu aurais une petite visualisation à nous proposer pour nos premières méditations de cette année 2021 ?
Moi, j'aime beaucoup l'idée de développer de la gratitude et presque une forme de bénédiction, en fait, au sens laïque. Mais prendre le temps, ça peut être le matin ou le soir d'ailleurs, de... développer toutes nos sources de gratitude, en commençant par notre corps. Donc ça peut être commencer par remercier nos pieds qui nous portent, on a la chance d'avoir des pieds pour marcher, remercier nos mains qui sont de formidables outils, remercier nos organes qui, sans qu'on y pense, notre cœur qui fait un travail incroyable, nos poumons qui font un travail incroyable, tout notre système digestif, et aussi notre système immunitaire. Développer la gratitude pour nos cinq sens, ces yeux qui nous permettent de voir, les oreilles qui nous permettent d'entendre, le goût aussi, l'odorat, c'est des sens qu'on oublie parfois mais qui sont tellement importants aussi pour notre survie même, hein, et notre façon d'être au monde et notre joie de vivre. Et puis une fois qu'on a vraiment développé toutes les sources de gratitude pour notre corps, eh bien on peut étendre cette gratitude pour nos amis, nos proches, toutes les personnes qui sont dans notre vie. Et en fait, on peut s'apercevoir que c'est infini. On peut passer une heure à développer cette gratitude. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très, très, très puissant. Et puis, plus on développe la gratitude, plus on reçoit. Plus on prend conscience du positif dans sa vie, plus le positif grandit.
Eh ben, merci beaucoup Olivia pour ces pistes pour enrichir notre pratique pour cette nouvelle année. Alors où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de pratiquer avec toi en ce moment ?
Eh bien, je fais des cours en visio, je fais des ateliers, des retraites régulièrement tout au long de l'année. La prochaine a lieu du 13 au 18 février en Lozère, donc dans un endroit magnifique avec une vue sur les gorges de la Jonte Et on fera donc des pratiques très complètes, à la fois posturales, des pratiques dynamiques, des pratiques douces, du travail de mantra, enfin des chants de mantra. On abordera aussi les mudras et puis le yoga nidra. Et un petit peu de théorie aussi en rapport avec l'Ayurveda et puis la thématique de garder la vitalité, sa vitalité en hiver.
D'accord, et bien ça, oui, on peut retrouver toutes les informations sur ton site sophroyogi.com que je mettrai dans le descriptif de l'épisode, évidemment.
Merci.
Merci beaucoup à toi, Olivia. Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à me mettre une note et un commentaire sur votre appli de podcast préférée, notamment sur Apple Podcast, ça m'aidera à le faire connaître. À très bientôt pour un nouvel épisode de Yoga et nous.